VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, midi à Abidjan, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. RCA, don de véhicules à l'armée centrafricaine par les États-Unis et la Chine. C'est ce que souligne un communiqué de la présidence centrafricaine, notant que Washington a offert au FACA, les forces armées centrafricaines, 57 véhicules de transport le 6 août et que Pékin en a donné plus de 75 autres aux militaires centrafricains hier mercredi. La reconstruction de l'armée centrafricaine est l'un des principaux chantiers du président Faustin Archange Touadéra, élu en 2016. Et les FACA doivent à terme remplacer les casques bleus de la MINUSCA, la mission de l'ONU prise en RCA depuis 2014. Les militaires centrafricains bénéficient pour cela d'une formation de la mission EITM de l'Union européenne et aussi de la Russie, qui a dépêché à Bangui 5 officiers et plus de 170 instructeurs civils qui appartiendraient à la société militaire privée russe Wagner, selon les experts. Par ces dons d'armement, moyens de transport et formation militaire, les pays et organisations concernées cherchent à renforcer leur influence dans un état stratégique riche en ressources telles que diamants, or, uranium et bois. République démocratique du Congo, les États-Unis se félicitent de la décision du président congolais Joseph Kabila de ne pas se présenter à sa réélection, tout en estimant que davantage peut être fait pour assurer une transition démocratique dans le pays. En désignant in extremis le patron du parti présidentiel et ancien ministre de l'Intérieur Emmanuel Ramazani Shadary comme son dauphin pour la présidentielle du 23 décembre, le chef de l'État congolais a mis fin à des mois de spéculation. La réaction de Brian Newbert, l'un des porte-parole du département d'État américain.
Pour les États-Unis, c'est vraiment une bonne étape. Sûrement, ça semble être une opportunité pour une élection libre au mois de décembre, une opportunité pour la population congolaise de s'exprimer et de voter pour le gouvernement, en fait, pour la première fois dans leur histoire.
Brian Newbert, du département d'État américain, joint à Johannesburg, en Afrique du Sud. Violence au Mali. Au moins 11 civils, peu l'ont été enlevés et tués mardi dans la région de Mopti, dans le centre du pays, au cours d'une attaque attribuée à des chasseurs de l'ethnie Dogon. C'est ce qu'a déclaré à l'AFP Abdoulaziz Diallo, président de Tavital Poulakou, principale association Peul du Mali. La région est le théâtre depuis 3 ans de violences intercommunautaires entre Peul, traditionnellement éleveur, et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant majoritairement l'agriculture. Outre les 11 personnes enlevées, 4 autres civils peuls ont été arrêtés par la suite et assassinés, a souligné un élu local, Ousmane Cissé. Toujours au Mali, la Cour constitutionnelle a proclamé ce mercredi les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, le président sortant et candidat à sa propre succession, sera au second tour face à Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Les recours de l'opposition ayant été rejetés en bloc. Les explications de Kassim Traoré, le correspondant de VOA Afrique, à Bamako.
À travers cette proclamation, la Cour a rejeté toutes les requêtes introduites à son niveau. Les 9 sages ont procédé à des redressements avant de publier les résultats définitifs. Manassa Danyogo, président de la Cour constitutionnelle du Mali.
Électeurs inscrits 8 462, votants 3 416 218, bulletins 224 069, suffrages exprimés 3 192 149, taux de participation 42.
Comme lors des résultats provisoires, il n'y a eu aucun changement avec les résultats définitifs.
17,72%. Considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1,331,132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567,672 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018.
Les Maliens sont encore appelés à départager Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé comme lors du second tour de 2013. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique en direct de Washington.
Côte d'Ivoire, le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a annoncé dans un communiqué ce jeudi qu'il mettait fin à son alliance avec le Rassemblement des Républicains, RDR, du président Alassane Ouattara. Les deux partis gouvernant le pays ensemble depuis 2010. Le PDCI se retire du processus de mise en place d'un parti unifié dénommé RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, et présentera des candidats pour les élections municipales et régionales sous sa bannière, déclare le communiqué diffusé au lendemain d'une rencontre entre le président Ouattara et le leader du PDCI, Henri Conan Bédié. Le parti unifié RHDP, créé par le président Ouattara à la mi-juillet, visait à unir le RDR et le PDCI dans un même mouvement. Les deux partis étaient alliés depuis 2005 dans une coalition électorale qui a permis l'élection d'Alassane Ouattara à la présidence en 2010 et sa réélection en 2015. Rappelons que les élections locales sont prévues le 13 octobre et la prochaine élection présidentielle en 2020. Et toujours en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo est libre depuis hier. Plusieurs personnalités de l'ancien régime du président Laurent Gbagbo ont également été libérées. Ces libérations sont consécutives à l'amnistie accordée lundi dernier par le président Alassane Ouattara. Notre correspondant à Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, revient sur l'ambiance de la libération de l'ancienne première dame de Côte d'Ivoire.
Libérée au terme de 7 années de détention, Simone Gbagbo a regagné sa résidence de Cocody, accueillie par une foule de militants en IS.
Sincèrement, je suis très ému, je suis content de l'avoir libérée. Il faut dire que le président de la République actuel, Alassane Ouattara, a fait un grand pas. Ça nous va droit au cœur. Donc nous sommes venus manifester cette joie-là. Vive tout le monde, la terre du bon pays de joie.
En réalité, en Côte d'Ivoire, si on sait que de part et d'autre, il y a eu des crimes. Donc, un groupe ne peut pas être en prison pendant qu'un autre groupe qui est incriminé soit libéré. C'est naturellement à juste titre que Alassane Ouattara l'a fait. Nous disons merci pour ces pas, parce que c'est ce que nous avons besoin. Nous avons besoin de rassurer la Côte d'Ivoire.
Marie-Solange Guédé, membre du comité central du Front populaire ivoirien, le FPI.
Nous voulons te rendre gloire à Dieu. Quand Dieu commence, il achève. Et nous savons que le papa même, il va venir bientôt. Je veux tout simplement dire merci à Dieu.
L'émotion était palpable sur le visage de Michel Gbagbo, fils de l'ancien président Laurent Gbagbo.
Mon sentiment, c'est normal, hein, naturel. Hein, vous le devinez vous-même. La joie, le contentement, voilà. Extrêmement content. La première nouvelle, c'est celle de la libération de Simone Gbagbo, qui en préfigure une autre, celle de la libération du président Laurent Gbagbo.
Très attendue, Simone Gbagbo s'est montrée peu bavarde. Elle a simplement remercié Abdramane Sangaré, l'une des grandes figures du FPI, ainsi que les militants pour leur mobilisation.
Au moment où on s'y attendait le moins, il dit « Simone, tu as quitté ». Et quand les militants le veulent, on a ouvert le pari. On est parti.
Outre Simone Gbagbo, plusieurs personnalités de l'ancien régime, dont les ex-ministres de la Construction Assoua Adou et de la Défense Moïse Lida Kouassi, ont bénéficié de l'amnistie accordée par le président Ouattara à quelques 800 personnes poursuivies pour des crimes liés à la crise post-électorale de 2010-2011, mais aussi pour des infractions contre la sûreté de l'État commise après son investiture en mai 2011. Souleymane Camara Tekone, alias Soul Toussoul, un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, a également recouvré la liberté. Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique, Abidjan.
Au Kenya, l'explosion d'une mine artisanale a tué 5 soldats. Mercredi, au passage de leur véhicule dans le comté de Lamu, dans l'est du pays. Et au Soudan du Sud, le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret par lequel il amnistie les rebelles, dont son grand rival Riek Machar. C'est ce qu'a annoncé ce jeudi la radio d'État. Le président Kiir a également renouvelé son appel à ce que ses troupes respectent le cessez-le-feu signé en juin avec Riek Machar. L'annonce intervient peu après la signature dimanche à Khartoum d'un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement et la rébellion. Il doit notamment permettre à Riek Machar de retrouver son poste de vice-président. Et pour terminer, au Niger, 22 personnes sont mortes dans des inondations dues à de fortes pluies. C'est ce qu'a annoncé mercredi soir le gouvernement. À la date du 6 août, le bilan est de 49 000 personnes sinistrées et nous avons malheureusement enregistré 22 décès, a annoncé à la télévision publique le ministre nigérien de l'action humanitaire, Lawan Magadji. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.